Voilà, bah bonjour à tous. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer. C'est un plaisir et un privilège pour moi d'être au milieu de vous et de pouvoir partager comme réflexion. Effectivement, je suis psychologue de formation, mais j'ai également une formation en théologie. Et donc, je vais essayer d'avoir ce double regard sans devenir complètement schizophrène devant vous, puisque je ne souffre pas encore de dédoublement de personnalité, mais dédoublement, voire de triplement de fonctions, c'est parfois un peu complexe à vivre. Mais ça, c'est un autre débat. On pourra en reparler à la pause si ça vous intéresse. Donc, quand on veut aborder toute cette question de l'identité, il y a beaucoup de questions qui viennent. Et très souvent, si on regarde des exemples de la vie courante, quand on croise des personnes, l'une des premières questions, quand vous entrez en relation, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que c'est cela, mon identité ?» Est-ce que ça se limite à une fonction, à un rôle, à un métier, à une profession, à une activité? Comment définir aussi la réalité d'une personne? Est-ce que c'est en fonction d'une identité naturelle, d'une identité spirituelle, des deux? Voilà déjà des questions qui nous animent. Si quelqu'un me dit « Dis-moi qui tu es », j'aurais envie de répondre « Paul Millman ». Il va me répondre « Mais non, ça c'est ton nom ». Et ton prénom, dis-moi qui tu es. Alors voilà, je suis psychologue, formateur en travail social, chargé de cours à l'Institut biblique de Genève. Non, ça c'est ce que tu fais, dis-moi qui tu es. Alors je suis une personne née en Alsace, avec un des parents qui est d'origine bretonne. Non, ça c'est ton arrière-plan culturel, dis-moi qui tu es. Un homme nouveau qui veut avancer dans la vie en servant Jésus-Christ. Mais non, dis-moi qui tu es. Et alors là, finalement, j'en démarre et je suis excédé, je vais dire « qui tu es ?». Au-delà de ce dialogue fictif, effectivement, on voit bien qu'on aborde la question de l'identité, qu'on touche à l'identité par différentes choses qui nous caractérisent. Tout ce que je vous ai décrit, c'est des caractéristiques de notre identité. Et alors, si on part d'un regard plutôt théologique, on sait que la création était bonne, que l'homme a été créé en image de Dieu, qu'il présente des qualités, des attributs qui sont spécifiques. Mais l'image de Dieu en l'homme est devenue caricature, pour reprendre le terme utilisé par Henri Blocher dans une publication. Est-ce que ça veut dire que cette image de Dieu a disparu? Bien sûr que non, et vous l'avez fort justement rappelé dans l'introduction de votre première intervention. Elle a été modifiée sur le plan fonctionnel et non sur le plan structurel. On pourrait dire qu'elle a été modifiée dans sa fonction, dans ses relations, mais pas dans sa nature ou son essence. Au lieu de servir Dieu et les autres, nous nous sommes mis à nous servir nous-mêmes. Ça, c'est l'héritage de la chute. Et donc, avec la rédemption, il y a une nouveauté. Mais vous le savez, pour tous ceux qui sont beaucoup plus calés en théologie que moi, au milieu de vous, qu'il y a une grande tension dans le Nouveau Testament entre deux mots, déjà, pas encore. Alors comprendre la question de la nature et de la fonction de l'image de Dieu, des qualités ou des attributs qui font partie de l'homme, peut nous donner une certaine appréhension de l'identité. J'aurais pu me pencher pour cet exposé sur qu'est-ce qui fait partie de la carte d'identité naturelle et de la carte d'identité spirituelle et de les comparer. Mais je ne suis pas certain que ce soit intéressant. Parce que, une nouvelle fois, ce qu'on sait aussi avec l'œuvre de Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et nous avons dans ce texte de 2 Corinthiens 17 une poursuite de la réflexion sur l'œuvre de réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça change au niveau d'identité humaine? Et qu'est-ce que c'est au fond que notre identité? Est-elle le fruit d'un arrière-plan familial et culturel? Et là, on aura un exposé cet après-midi qui va nous aider justement à voir toute la question de l'héritage culturel. Est-elle une réalité qui se développe au fil des interactions avec le milieu dans lequel un enfant évolue? Ou finalement, tout ce qui a animé le débat entre les psychologues, c'est à ma gauche la question de l'inné, tout est inné, tout vient de mes parents, ou de l'acquis, tout est acquis. Et finalement, en toile de fond de ce que je vais vous dire, il faut garder en tête ces deux mots, l'inné, ou notre héritage, l'acquis, les relations à l'environnement. Et donc, je voudrais structurer maintenant la suite de ce que je voudrais vous apporter en deux axes. Un premier qui va être beaucoup plus long que le second, où je vais essayer de vous amener quelques réflexions sur l'apport des théories relatives au développement de l'enfant. Évidemment, c'est un survol. En 45 minutes, je n'ai pas la prétention de faire ce que je fais dans d'autres contextes, dans les formations en milieu éducatif qui prennent plutôt 6 à 9 heures, mais je vais vous donner un survol. Et pour bien comprendre les choses, je vous laisse découvrir le schéma. 6 points de vue sur le développement, la construction de l'être humain. Un premier point de vue qu'on va aborder qui sera celui de la physiologie et des neurosciences. Quel est l'apport, justement, du développement physiologique? Qu'est-ce que ça nous donne comme éclairage? Quel est l'apport de la génétique, du tout inné? Quel est l'apport de la structure et du fonctionnement de l'être humain? Quel est l'apport de l'environnement et du tout acquis? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la notion d'affectivité et de changement? Et puis, évidemment, on ne va pas oublier l'aspect spirituel. Donc, je vais vous demander de vous accrocher puisqu'on va aborder rapidement l'ensemble des données de la psychologie humaine, et il y en a, ça pourrait faire une encyclopédie, sur comment ces 6 points sont abordés. Évidemment, ces domaines ont été traités en sciences humaines et constituent les bases de la psychologie, de la psychopathologie. Elles offrent un éclairage sur l'enfant et sur l'adulte par rapport à tout ce qu'il a construit en tant qu'enfant. Alors, venons-en au premier de ces 6 points de vue, la physiologie et les neurosciences. Pour le dire autrement, sans cerveau, il n'y a pas de vie. Et c'est vrai que les observations récentes sur le cerveau, sur la base neuroanatomique des comportements, ont connu une histoire faite de rebondissements, de recherches tout au long des siècles. Les études neuroanatomiques ont nettement progressé, il y a eu un bond en avant dans la médecine grâce à l'imagerie cérébrale et notamment à l'imagerie dynamique où on arrive à voir, quand je suis en train de vous parler, si on me mettait sous imagerie, quelle est la zone de mon cerveau qui travaille et celle qui ne fait rien, en fonction du niveau d'oxygène que je vais puiser. Ça, c'est de l'imagerie médicale. Mais la base neuroanatomique des comportements est difficile parce que le système nerveux, le cerveau, est complexe. Et souvent, on a étudié les choses à partir des manques. Là où la neuropsychologie, l'étude des comportements en lien avec les lésions cérébrales a fait des bons en avant, ça a été notamment après la grande boucherie de 14-18. Parce qu'il y a eu des blessés de guerre avec des lésions très précises qui ont été étudiées. On a disséqué les cerveaux post-mortem, mais on a compris qu'est-ce qui faisait que telle personne avait tel trouble. De là à dire que parce que vous avez une blessure côté gauche dans votre tête et que ça va traduire tel ou tel trouble, on n'en est pas encore là. Ça a été une tentative, mais on n'arrive pas à faire le tout localisé. Et la tendance actuelle, elle est beaucoup plus dans l'étude des circuits de régulation au sein du cerveau. On n'est plus dans la recherche, telle zone du cerveau va activer tel ou tel élément, à part pour les fonctions de base comme la motricité, le geste, etc. Mais beaucoup plus sur qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la chimie du cerveau, les choses fonctionnent. Et là aussi, c'est les études sur certaines maladies, notamment au niveau de la conduction nerveuse. Quand vous avez une maladie neurodégénérative comme la sclérose en plaques qui freine les conductions nerveuses, on voit certains troubles apparaître. L'imagerie cérébrale a fait de nombreux progrès et a permis une compréhension beaucoup plus détaillée de l'être humain et de son fonctionnement. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé, c'est une voie, à mon avis, d'exploration intéressante dans le domaine des sciences humaines parce que les découvertes qui vont encore être à venir vont aider à une meilleure compréhension de l'être humain et de son fonctionnement. Et c'est intéressant de voir que diverses études ont mis en avant certains points comme ce qu'on appelle l'incompétence ou la notion d'incompétence apprise. C'est des personnes qui ont étudié cela, notamment dans le domaine des thérapies cognitives et comportementales, et qui se sont rendues compte que quand vous avez bombardé de messages qui vous poussaient à l'échec, finalement, vous étiez dans un processus où vous alliez vous-même construire votre échec. Prenez un exemple tout à fait concret. Quand on accompagne des personnes au niveau de la cure d'âme ou de la relation d'aide, qui vous disent, de toute façon, quoi que je fasse, je ne vais jamais y arriver. J'ai toujours planté mes examens, ce n'est pas maintenant que ça va changer. Et le questionnement va consister à dire, mais qu'est-ce qui fait que tu dises toujours ? Ça, c'est l'incompétence apprise. Et du coup, tout le travail va être de dire, est-ce qu'on arrive à un moment donné à renverser la vapeur ? Pour moi qui travaille aussi dans le domaine de la protection de l'enfance, j'ai confronté à des maltraitances, à des carences affectives chez certains enfants. Et un neuropsychiatre qui s'appelle Baroudi a fait des découvertes intéressantes dans ce domaine-là. Il s'est rendu compte que pour les victimes d'abus sexuels, de maltraitances, de négligence, il y avait, au niveau du cerveau, on pouvait repérer une atrophie dans le cortex frontal, donc toute la partie avant, qui concerne la prise de décision, l'analyse de problèmes, etc. Et qu'il y avait le réseau émotionnel avec l'amygdale qui était hypertrophié. Et ce qui est intéressant, c'est que la suite de l'histoire se poursuit avec l'idée que, via la thérapie, une fois que les personnes arrivaient à rentrer dans un processus où finalement elles n'étaient plus bloquées par l'incident traumatique, il y avait un rééquilibrage imagerie médicale à l'appui. Le cortex préfrontal se développait à nouveau et prenait le dessus sur l'amygdale. Donc voilà des choses qu'on observe avec des imageries médicales et qui posent à la fois des questions, mais qui sont des voies d'ouverture. Voilà pour la physiologie et les neurosciences. Deuxième angle de vue, le point de vue de la génétique ou de ce qu'on appelle du tout acquis. L'anthropologie ou la connaissance de l'homme s'est intéressée aux caractéristiques de la personnalité. Évidemment, tout ce qui tourne aux théories génétiques, c'est voilà le caractère, on a longtemps parlé du caractère, et d'un mot que vous avez sans doute entendu parler, c'est la notion de tempérament. Le tempérament de la personne se retrouve dans ces théories plutôt d'origine génétique. Et on retient l'idée de quatre tempéraments, le sanguin, le colérique, le flegmatique et le mélancolique. Alors, que penser de cette théorie des tempéraments ? Déjà, c'est la médecine antique, c'est Hippocrate et son gendre Polybe qui avaient développé cette approche des choses. L'idée générique, c'est que les tempéraments sont associés à un déséquilibre dans les fluides corporels, notamment au niveau du sang, de la lymphe, de la bile jaune ou de la bile noire. Et donc, pour avoir un tempérament un peu moins trempé, il fallait rééquilibrer les fluides. Et c'est un peu comme ça qu'est née la notion d'hypnose en thérapie, puisque les premières expériences visaient, avec un homme qui s'appelait Franz Anton Bessemer, à rééquilibrer les fluides et mettait les personnes dans des baquets avec des aimants. Enfin, c'était assez original comme manière de voir les choses. Mais cette théorie des tempéraments a été très présente dans toute la médecine antique et est revenue en force avec les idées de la Renaissance. Évidemment, c'est une approche qui n'a pas forcément de fondement biblique. Elle a plutôt un arrière-plan ésotérique. Or, il se trouve que les questionnaires de personnalité qu'on vous donne, certains, sont faits sur la base des quatre tempéraments. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le questionnaire de Myers-Briggs ou MBTI. Alors, Myers et Briggs ont développé une idée sur 16 profils de personnalité, mais derrière, vous retrouvez la question des quatre tempéraments. Comme j'ai baigné un petit peu dans la théologie réformée, je crois aussi en la grâce commune et la possibilité que même des choses qui sont des outils de la psychologie, on peut les utiliser du moment qu'on est au clair sur l'arrière-plan et sur la grille de lecture qui s'impose à nous. Le problème, c'est qu'effectivement, ce qui me gêne dans ce toutiné des théories génétiques, c'est qu'il y a cette idée que les choses sont inéluctables. Si à un moment donné, je considère que mon ami Joël Attia est quelqu'un de sanguin ou de colérique, je vais prendre une belle étiquette sanguin-colérique, je lui mets sur son front. Tout ce qu'il fera ou tout ce qu'il dira, ce n'est pas Joël, c'est le sanguin ou le colérique. Et on ne voit pas la possibilité d'un changement, on va avoir un filtre dans notre lecture du comportement d'une personne. Voilà ce qu'on peut dire sur les théories génétiques. On peut citer aussi les études de Kretschmer au XXe siècle, qui a notamment travaillé au niveau de la criminopathologie et qui, en regardant les profils des personnes, pouvait dire, voilà, tel type de personne va forcément être tel type de profil psychiatrique. Donc ça, c'est les théories génétiques, deuxième point de vue. Les théories structurelles et leurs dérivés. Alors là, l'un des plus grands auteurs, c'est Jean Piaget, né à la fin du 19e et dont l'activité principale s'exerçait au XXe siècle. Piaget a conceptualisé ce qu'on appelait les stades de développement de l'enfant. Et donc, pour Piaget, la construction de la personnalité se faisait en fonction de l'intelligence. C'est vraiment la clé pour comprendre Piaget, c'est de dire les acquisitions qu'un enfant va faire, ce qu'il va vivre au cours d'interactions, vont constituer son intelligence. Donc, il s'est intéressé au développement cognitif de la personne, capacité à construire un raisonnement, une pensée, et à la construction de la pensée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les études de Piaget sont excellentes sur le plan clinique, parce qu'il a construit sa pensée à partir d'observations d'enfants dans des situations concrètes. Comment ils agissaient, comment ils interagissaient, qu'est-ce qui se passait comme relation. Et donc, il s'est intéressé à la question des interactions des enfants et de leur effet sur la construction de l'intelligence. Piaget, c'est le théoricien de la construction de l'intelligence. Ce qui est intéressant aussi avec Piaget, je vais dire un mot sur Henri Vallon après, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé à la question de l'adaptation et à l'idée, effectivement, que les stades progressaient dans un ordre de succession qui était invariant. Alors, pour Piaget, pour la petite histoire, il y avait 4 stades de développement. Grosso modo, 0-3 ans, c'est l'intelligence sensorimotrice où finalement l'enfant va acquérir par le contact d'objets, il va voir quelque chose, il va le lancer au loin, il va le reprendre, etc. Vous avez ensuite, chez Piaget, ce qu'on appelle la période préopératoire, c'est-à-dire que pour un enfant, il va se dire, tiens, ça c'est un objet, ça peut servir à ça, voilà comment ça fonctionne, mais il est capable de dire, tiens, il va te manquer la zapette pour pouvoir faire ta présentation, sans forcément nommer la zapette, alors ça va dépendre de l'âge, effectivement, de l'enfant. Et là, on est dans le stade 3-7 ans. Ensuite, 7-12 ans, vous avez ce qu'on appelle la période des opérations concrètes chez Piaget. Il est capable d'aller au-delà de son seul point de vue et il peut mettre en lien plusieurs points de vue. Il va raisonner aussi à partir de certains liens qu'il va faire. Il va prendre conscience de sa propre pensée, il peut accepter le point de vue des autres, mais il va avoir quelques difficultés dans le transfert de volume en particulier. Et une expérience qui est restée célèbre de Piaget, si on prend le thé qui est dans le verre, vous prenez un récipient plat, vous mettez la même quantité, vous demandez à un enfant est-ce que c'est la même quantité, il va vous dire non. À part ça, tant qu'il est dans la période des opérations concrètes. De même, il ne vous a pas vu transvaser, il ne comprendra pas qu'il y a une même quantité ou un même volume de liquide dans le récipient. Et la période des opérations formelles, donc à partir de 12 ans, c'est là qu'on voit effectivement cette idée de transvasement, de volume, etc. Et pour ça, faire de la géométrie dans l'espace avant 12 ans, c'est plutôt risqué. J'en parle avec ma fille cadette, justement, c'est toujours un défi. Henri Vallon, deuxième grand théoricien. Alors Henri Vallon est à peu près contemporain de Piaget, c'est la même période. Il s'est intéressé au développement de l'enfant et lui, au lieu de faire les 4 stades de Piaget, il en a rajouté 2. Mais beaucoup plus dans la période de développement avant l'acquisition du langage. Donc, Vallon parle à la fois du développement sur le plan de l'intelligence, mais aussi sur l'effet de l'affectif sur l'intelligence. Piaget restait vraiment la pensée, l'intelligence, Vallon a rajouté la dimension affective. Et du coup, comme il fait le lien entre les deux, il a parlé aussi de stade sensorimoteur, on retrouve la même pensée que chez Piaget, de stade projectif, où il commence à voir ce qui se passe dans son entourage, et puis de stade du personnalisme ou de la personnalité polyvalente. Voilà, c'est des théories, effectivement, qui donnent un autre éclairage. Concernant le jeune enfant, donc, il définit 5 stades de développement. Vous voyez, alors que Piaget en était resté avant 7 ans à simplement 2. Même si le premier stade, il avait décomposé encore en d'autres stades, mais là, c'est un détail dans lequel je ne vais pas rentrer parce que ça va complexifier les choses. Les travaux de Piaget et de Vallon se situent dans une logique structurelle. C'est comment se structure la pensée, l'intelligence, comment se développe la personne. Et finalement, ce qui va remettre un petit peu en cause, c'est qu'aujourd'hui, on ne conçoit plus, comme au temps de Piaget, l'intelligence comme une entité unique et globale, mais beaucoup plus comme une entité en réseau, avec différentes composantes. Dans l'intelligence, il y a le langage, il y a l'attention et la concentration, la mémoire, les gestes, et puis aussi, on parle depuis quelque temps d'intelligence émotionnelle. Tout ça, c'est des choses qui sont nouveaux et qui ont amené à sortir du concept global d'intelligence pour avoir une vue un peu plus décomposée des choses. Évidemment, les progrès des neurosciences ne sont pas totalement absents de cette réflexion parce qu'on s'est rendu compte que le cerveau fonctionne comme une belle machine ordonnée, qu'il y a des zones qui fonctionnent pour le langage chez les droitiers qui sont toujours les mêmes. En général, c'est du côté du cerveau gauche. Et chez un gaucher, ça peut être différent, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que les théories structurelles ont aussi évolué parce qu'on s'est rendu compte d'un phénomène au niveau du cerveau qui est la capacité à remettre en place certaines fonctions après lésion cérébrale. C'est la fameuse plasticité cérébrale. Alors ça, c'est une donnée qui est tout à fait intéressante, qui est née à peu près dans les recherches des années 80-90 et qui a connu un essor. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, en fonction du type de lésion qu'avaient certaines personnes, en fonction de la gravité de l'atteinte, il pouvait y avoir un rôle de suppléance de certaines structures et parfois une récupération de certaines fonctions parce que d'autres connexions se faisaient dans le cerveau. Et ça, c'est aussi une voie d'étude tout à fait intéressante. Et donc, j'ai déjà cité les travaux de Baroudi sur les modifications neuronales, notamment au niveau de l'amygdale, qui est le noyau gris central du cerveau qui intervient dans les émotions, et la partie avant, notre cortex préfrontal. Toujours dans les théories structurelles, par rapport à la structure de la personnalité, on serait incomplet si on mettait de côté la psychanalyse. Et notre cher Sigmund Freud, qui s'est intéressé à l'enfant, mais à partir de ce qu'il a observé chez l'adulte. Le grand apport de Freud a été essentiellement la théorisation de ce qu'on a appelé le complexe d'Œdipe, qui est déterminant entre 4 et 6 ans. Freud a aussi apporté un éclairage sur les fonctions spécifiques des parents, sur le fait qu'il y a une fonction paternelle et une fonction maternelle, et que la manière de construire l'identité en fonction des relations avec un père ou avec une mère est essentielle. Et là, je crois qu'on a quand même un apport tout à fait intéressant par rapport au débat éthique actuel sur la théorie du genre et sur le fait que, soi-disant, les hommes et les femmes sont tous égaux. Je pense qu'il y a matière à réflexion si on s'appuie sur cette idée-là et de se dire que, pour moi, et c'est là où j'ai beaucoup de peine à aller même dans le sens au-delà d'une vision chrétienne des choses, de la question de l'homoparentalité, c'est que pour moi, il va manquer quelque chose à un enfant en termes de repères et de référents paternels et de référents maternels. Il y a quand même une différence entre deux parents qui vont être essentielles dans la construction de l'identité. Le rôle du complexe Œdipe est essentiel parce que pour Freud, ça va structurer l'enfant qui va passer du désir d'avoir l'autre comme objet de plaisir au désir d'être. Et au fond, ce qui est intéressant dans la théorie de Freud, c'est la notion de stade, de régression. Alors après, il a développé effectivement toute l'idée de pulsion, de théorie sexuelle et de stade qui sont liés à la maturation de la vie sexuelle et du désir sexuel chez l'enfant. Évidemment, en psychologie de l'enfant, on parle des stades de Freud, on parle du stade oral, anal, phallique, etc., du complexe d'Œdipe, de la période de latence et ensuite de l'adolescence. Mais au-delà de cette compréhension, la psychanalyse freudienne a été beaucoup plus éclairée sur la compréhension de l'enfant par deux auteurs qui sont Anna Freud, donc la fille de Sigmund, et Melanie Klein, dont les travaux de recherche ont été utiles pour mieux comprendre le développement de l'enfant. Anna Freud, son apport, c'est effectivement l'idée que l'environnement joue un rôle dans le développement. On sort du tout idée, du tout déterministe. Et le fait qu'on peut avoir un développement homogène et harmonieux, quel que soit l'enfant, mais que c'est au fond une utopie. Parce qu'il y aura toujours des accidents de la vie, quelles que soient les familles. Alors Melanie Klein, son apport a été beaucoup plus connu sur les travaux concernant les bébés. Melanie Klein, c'est elle qui a amené au modèle psychanalytique la notion de pulsion de vie et de pulsion de mort. Et au fait qu'effectivement, la question de la frustration est essentielle dans le développement de l'enfant. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, la théorie psychanalytique reste très présente dans les mentalités en psychologie de l'enfant. La France n'est pas que la fille aînée de l'Église catholique, elle est aussi la fille aînée de la psychanalyse. N'hésitons pas à le dire. Et souvent, on a dans le discours qui rejette parfois les choses en bloc au niveau de la psychanalyse, un rejet d'un certain nombre de concepts, alors qu'il y a quand même des idées qui sont intéressantes, même si moi je ne suivrai pas Freud jusqu'au bout dans sa théorie. Venons-en au quatrième point de vue, les théories centrées sur l'environnement. Ici, on a abordé jusqu'à présent la notion d'inné, on va maintenant se focaliser sur le tout acquis. Tout d'abord, les théories behavioristes. Alors ça a été les observations de laboratoire, avec notamment la notion de réflexe conditionné. On apprend par conditionnement, c'est le fameux chien de Pavlov, où Pavlov, en tant que chercheur, faisait sonner une clochette pour prévenir l'animal qu'il allait avoir sa pâtée. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, il suffisait d'agiter la clochette pour que le chien se mette à saliver. Dans la suite de Pavlov, on a un autre chercheur qui a été Skinner, qui a rajouté une conceptualisation au conditionnement en disant « l'animal peut être acteur » et alors que le chien de Pavlov ne faisait rien, en appuyant sur une pédale, si un rat est mis dans une cage, s'il appuie sur une pédale, il y vira sa pastille, il sera appuyé sur la pédale, ça veut dire j'ai faim et je veux être nourri. Donc ça, c'est les apports des théories behavioristes, des théories comportementales. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout un courant de thérapie s'est développé à partir des théories comportementales, et après, à partir notamment de la question du cerveau, puisque le grand danger, à un moment donné, quand on parle de stimulus et réponse, c'est qu'on a tendance à oublier qu'au milieu, il y a un cerveau qui fonctionne. Toujours dans ces théories centrées sur l'environnement, on a l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal en situation. Évidemment, dans ces courants, on a étudié les animaux dans leur milieu naturel, les primates non humains ou les singes. On a découvert des choses concernant l'attachement mère-enfant dans le développement de la personnalité qu'on a pu transposer à la séparation de l'être humain. Et dans le domaine de l'éthologie, il faut mentionner les travaux fort intéressants d'un chercheur qui s'appelle Hubert Montagnier, qui a observé dans le milieu de la petite enfance les interactions des enfants dans les crèches, dans les haltes garderies, pour voir comment ça se passait. Et pour Montagnier, il y a plusieurs profils d'enfants. Vous avez l'enfant leader, que tout le monde va suivre. Vous avez le dominant agressif qui va s'opposer au leader et qui va essayer de piquer la place du leader. Vous avez ensuite le dominant fluctuant. De temps en temps, il va bousculer le leader. De temps en temps, il va rester plutôt soumis. Vous avez un dominé avec des traits de leader qu'on va suivre à certains moments, mais pas à d'autres. Vous avez un dominé avec des traits agressifs. Et puis, vous avez le dominé craintif. Et il a filmé des enfants en crèche. Enfin, il y a des heures et des heures de bandes vidéo de Montagnier qui voient comment ces comportements se manifestent. Alors, est-ce que ces comportements existent à l'âge adulte? Pour Montagnier, oui. Est-ce qu'on les retrouve dans l'Église? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais je me permets de vous taquiner un petit peu en posant la question. Il y a, je pense, matière à réflexion à ce niveau-là. Et puis, toujours dans les théories centrées sur l'environnement, les théories de la communication. Alors là, ça a été beaucoup développé par l'école de Palo Alto en Californie, donc qui a été une école de thérapie qui a donné naissance au courant des thérapies familiales d'orientation systémique, qui s'est basée... Qu'est-ce que j'y vais ? Ah, je suis allé trop loin. Excusez-moi. Il faut que j'arrête de jouer avec mon... Allez, on y arrive. Donc, les théories de la communication, cinq axiomes ou cinq règles essentielles de communication. La première, on ne peut pas ne pas communiquer. Si vous avez quelqu'un qui s'isole dans une grotte et qui ne parle pas, par son comportement, il va communiquer un message. La communication présente deux aspects, le contenu et la relation. Et souvent, on observe un décalage entre le contenu, la forme du message, les informations données, et la relation. Si je dis à ma femme, « Ouais, chérie, je t'aime », il y a un décalage entre les deux. Parce qu'au niveau du contenu, ce sera la même information que si je lui dis, « Chérie, mais je t'aime !» Alors qu'au niveau de la relation, ce ne sera pas pareil. Une séquence de communication entre des partenaires est indéfinissable parce qu'elle est complexe. Puisque la communication, ce n'est pas seulement la transmission de l'information, c'est aussi la réaction d'une personne en face. Et ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle la ponctuation des séquences de communication. On distingue aussi la communication digitale et analogique, le fait qu'il y ait des unités d'information et la manière ou le sens des conventions. Ça, on le voit bien quand j'ai ma fille aînée qui est actuellement en train de faire la conduite accompagnée. Ben, le code de la route, typiquement, qu'un feu rouge, il faut s'arrêter, c'est une convention. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'apprentissage. Et puis, la communication est aussi fondée sur l'égalité des relations, mais aussi sur la différence ou la dissymétrie. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais finalement, comment l'être humain se développe en fonction de ces théories de la communication? Et la grande innovation de l'école de Palo Alto en Californie a été de dire, quand vous abordez des personnes qui sont plutôt de type schizophrène, vous allez être confronté à ce qu'on appelle un double discours, avec des personnes à qui on va dire « sois spontané ». Si un enfant obéit à cette injonction, par définition, il n'est pas spontané, sauf qu'il a obéi à l'ordre que vous avez donné. S'il est spontané, il ne peut pas obéir à l'ordre que vous avez donné, donc il a tort. Et donc, c'est tout ce qui est du domaine de la communication paradoxale. Cinquième point de vue, l'affectivité et l'attachement. Les dysfonctionnements au niveau des liens provoquent certains troubles, notamment anxiété, dépression. Vous avez dans la notion d'affectivité l'interaction qui joue un rôle. Ça a été notamment les études de Brazelton qui parlait du bébé comme une personne. Vous avez la théorie de l'attachement, citons les travaux de John Bowlby, qui a beaucoup contribué dans la psychologie de l'enfant à comprendre que le lien entre un enfant et une figure d'attachement, que ce soit la mère ou que ce soit un nouvel adulte qui est investi, est essentiel à son développement. Et puis, l'accessibilité de la mère et aussi... ce qu'on a appelé la théorie de l'esprit, à savoir la capacité à partir de 3 ans pour un enfant de ne plus être auto-centré, mais avoir une capacité de compréhension, d'interaction, de projection dans le monde. Ce n'est pas l'esprit au sens théologique du terme, évidemment, vous m'avez compris. Hein. Donc chaque enfant aurait une capacité d'attachement aux autres personnes qui est assez stable entre 1 et 6 ans, et Bowlby distinguait ce qu'on appelait l'attachement évitant, l'attachement confiant ou sécure ou sécurisant, l'attachement ambivalent, de temps en temps il y a une réponse, de temps en temps pas, et puis confus et désorganisé qui vont créer énormément de troubles chez un enfant. L'attachement a deux fonctions essentielles pour tous les êtres humains, et ça c'est important de le souligner, ça a une fonction de protection. Pour le développement d'enfant, s'il a eu des figures d'attachement, il va se sentir protégé, il va se sentir en sécurité. Et ça a aussi un rôle à jouer en termes de nutrition et de soins. Et puis la fonction de socialisation qui va permettre que l'attachement va évoluer au cours des cycles de la vie, puisqu'on se construit aussi à partir des pertes que l'on a, des deuils que l'on traverse. Ça commence par la mère, puis on apprend à s'attacher à d'autres figures à des étrangers d'abord, puis aux membres d'un groupe. Sixième point de vue, la question de la dimension spirituelle. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez quand même, je l'ai évoqué en introduction tout à l'heure, la notion d'image originale. Qu'est-ce que l'image de Dieu dans la création ? L'image pervertie ou la caricature dans la chute, et dans la rédemption, l'image renouvelée, et puis l'image parfaite que nous espérons, plus de péché, plus de corps dysfonctionnels comme le mien, etc. Donc voilà un peu comment finalement on veut comprendre le développement de l'être humain. Vous avez six coups de projecteur qui tournent et qui vont donner une certaine vision de l'homme. Alors, du coup, je voudrais maintenant aborder, dans le temps qui nous reste, plus rapidement, la question de la constitution de l'être humain, ou passer un peu l'être humain à la loupe. La chair et le corps. Vous avez évidemment, alors si le sujet vous intéresse, je vous renvoie, j'ai abordé la question dans un travail de recherche qui avait été publié dans la revue Réformée sur l'anthropologie biblique et la relation d'aide, qui a été republié dans mon livre « La relation d'aide, vocation de l'Église ». Vous avez un vocabulaire hébreu, grec, et des transpositions qui fait que parfois, dans le français, le mot qu'on reçoit n'est pas tout à fait le même. Tantôt, vous avez le mot « cœur » dans la langue originale, qui est traduit par « âme » et réciproquement. Ça, c'est des choix qu'ont fait les traducteurs, mais ça rend le débat un peu plus complexe. La chair, c'est le terme « bazar ». Ce n'est pas moi qui l'ai inventé en hébreu, mais c'est l'homme dans son infirmité. Ça peut avoir plusieurs sens, ça peut représenter le corps, mais surtout dans la dimension de faiblesse et de vulnérabilité. Et puis vous avez un autre mot hébreu, kereb, qui correspond aux structures internes du corps, qui sont les organes, notamment les intestins, qui peuvent avoir des émotions, on est ému, jusqu'aux entrailles. Dans le grec du Nouveau Testament, c'est intéressant de noter qu'il y a une distinction entre deux mots, soma, le corps, et sarx, la chair. Et que les deux mots ne sont pas employés comme des synonymes parfaits. L'âme de l'homme, nefesh en hébreu, utilisée pour parler de l'homme, comme l'animal, de l'homme nécessiteux, mais à un sens qui est beaucoup plus évolué en hébreu, ou plus développé, que celui que Platon a donné à l'âme humaine, qui a été traduit en grec par psyché. Les différentes traductions de Nefesh, c'est la gorge, la nuque, le désir, l'âme, la vie et la personne. On pourrait dire que c'est la vie intérieure de l'être humain en relation avec la vie extérieure. Dans le grec du Nouveau Testament, dans la Septante, c'est psyché. Chez les pères de l'Église, vous y avez aussi dans l'héritage philosophique un peu de Platon et d'Aristote, l'idée que l'âme était même compartimentée en trois parties, la puissance végétative ou vitale, la puissance animale avec la puissance irascible et la puissance concupiscible. Il y a une faute sur le diaporama que je n'ai pas corrigé, je vous prie de m'excuser. La puissance irascible, c'est l'agressivité, la volonté de combattre. La puissance concupiscible, c'est les émotions, les désirs, l'affectivité et la puissance rationnelle. Tout ça, c'est dans l'âme chez Platon. Et ça a suscité de nombreuses études. L'âme a été considérée comme le siège des passions ou des vices. Et dans la théologie orientale, et même par la suite dans le monachisme, on avait cette idée que la raison doit dominer sur les passions, qui est plus un héritage stoïcien que biblique, un héritage aussi qui est en lien avec Platon et Aristote, et qui du coup a fait que, au fond, on est arrivé à une conception de l'être humain en trois parties, corps, âme, esprit. Ça a été la première version de ce qu'on appelait la trichotomie. L'esprit de l'homme, de quoi s'agit-il ? Le mot « ruah » est souvent utilisé en hébreu pour décrire la réalité de l'esprit, qui désigne la partie immatérielle de l'homme, qui est considérée comme la force vitale. Vous avez des correspondances qui existent avec Nefesh, qui se présente aussi comme une entité immatérielle. « Ruah » est traduit par « vent »,« esprit »,« souffle »,« énergie vitale »,« sentiment »,« volonté ». En grec, c'est évidemment le mot « pneuma » qui a été utilisé. Et quand j'ai envie de botter en touche avec la question de la dichotomie et de la trichotomie, je pose la question, vous dites âme, esprit, vous dites qu'il y a une séparation entre les deux, mais vous faites quoi du cœur ? Parce que finalement, le mot cœur, c'est celui que vous avez le plus fréquemment en termes d'occurrence biblique. 858 fois dans l'Ancien Testament, dont 814 fois avec une application à l'homme. Le cœur, c'est la source de la pensée, du sentiment, de l'intuition, de la rationalité. Et le cœur est essentiel dans la vie de l'homme. Et je pense que c'est intéressant de le souligner parce que finalement, on a cette idée que la sagesse peut remplir le cœur de l'homme qui s'attache à Dieu, tel que c'est dit dans les Proverbes. Sentiment, désir, perception, raison, compréhension, perspicacité, conscience, mémoire, connaissance, pensée, jugement, sens de direction, discernement. Tout ça, c'est le cœur. C'est énorme. Donc, ça représente le centre de l'être intérieur. Et un petit point qui est intéressant, si on va même plus loin, c'est par excellence l'organe qui va être responsable de la prise de décision dans le vocabulaire biblique. Aujourd'hui, on dirait que c'est notre cerveau qui prend les décisions. Mais pensée, rationalité, intelligence font partie de la réalité du cœur de l'homme. Et finalement, quand on me dit « Oui, mais moi, je crois qu'il y a une âme et un esprit », je dis « Mais vous faites quoi du cœur ? Il est où le cœur dans votre pensée ?» Parce que c'est quand même important sur le plan biblique. Alors, évidemment, je souligne encore un petit détail auquel Pierre Berthoud m'avait rendu attentif. Dans le vocabulaire biblique, le mot « cœur » est utilisé uniquement pour parler de Dieu et de l'homme, alors que le mot « âme » est utilisé uniquement pour parler de l'homme et de l'animal. Et c'est intéressant de le voir quand on veut faire la distinction entre cœur et âme. Rapidement, c'est terrifiant, je ne vais pas avoir le temps de développer les différents points de vue parce que je voudrais respecter le temps qui m'est imparti. Si on considère la nature de l'homme d'un point de vue global, vous avez, grosso modo, quatre approches essentielles. Vous avez le point de vue moniste, qui est une vision globale de l'être humain, sans distinction entre l'être intérieur et l'être extérieur. Et c'est vrai que c'est aussi un héritage de la pensée hébraïque qui avait l'idée d'un être humain dans la globalité. Ce qui est un peu gênant, c'est que tout ce qui concerne la vie après la mort, toutes les données bibliques que l'on a, la question du monisme pose des difficultés à résoudre cela. Le point de vue dualiste ou la dichotomie, c'est être intérieur, être extérieur, basé sur cette idée que notre relation à Christ renouvelle l'être intérieur pour que nous, notre corps, notre manière d'agir soit différent. Trichotomie, j'en ai parlé, corps, âme, esprit, vous avez deux approches. L'âme qui est du domaine de la sensibilité, des passions, des émotions, etc. Et l'esprit qui est de la raison. Et puis plus proche de nous, vous avez l'approche plus spiritualiste qui a été notamment développée par le théologien chinois Watchman Nee, où l'idée, l'âme c'est le rationnel, c'est la partie humaine terre-à-terre, alors que l'esprit est la partie spirituelle qui doit dominer sur le rationnel. Si la question vous intéresse de l'âme et de l'esprit, je vous renvoie à un excellent article qui était paru dans Ictus de la plume d'Henri Blocher. La vue dualiste holistique, c'est celle qui me semble la plus satisfaisante à mon point de vue. C'est cette idée que l'être humain est une personne globale avec une distinction entre l'être intérieur et l'être extérieur. Alors, pour clore le débat, je donne juste la parole à une petite citation de Jules Marcel Nicole, qui est un bijou. Depuis les origines du christianisme, les théologiens ont été les uns dichotomistes, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'homme composé de deux éléments, le corps et l'âme. Les autres, trichotomistes, c'est-à-dire qu'ils en distinguaient trois, l'esprit, l'âme, le corps. Toutes sortes de schémas, parfois fort ingénieux, ont été échafaudés sur ces bases. Les choses ne sont sans doute pas si simples. Sur le plan biblique, il apparaît difficile de découper l'homme en deux ou en trois. On ne dissèque que des cadavres. Un être vivant comprend des éléments fort divers liés les uns aux autres, indissociables, et c'est de leur union que dépend la vie. Et finalement, pour conclure en quelques mots, très rapidement, la vision qu'on a du développement de l'être humain, vous avez à la fois l'héritage des données de la psychologie, vous avez l'héritage des données bibliques que j'ai essayé d'illustrer avec les différentes composantes de l'être humain, mais finalement, en termes de développement, ce n'est pas si simple. Et en termes de développement, on voit comment l'enfant se structure, avance dans la vie. Et je pense que chaque point de vue éclaire une partie infime de la question. Les influences de l'inné, de l'acquis, de l'environnement, de la génétique, de l'histoire ne seront probablement pas toutes ou jamais totalement éclaircies. Les chercheurs en psychologie ont le mérite d'offrir des points de vue intéressants, complémentaires, mais l'essentiel est parfois négligé. L'essentiel, l'homme est image de Dieu, et ce n'est pas sans incidence sur la relation avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Et le texte de 2 Corinthiens que je citais tout à l'heure, le ministère de la cure d'âme, pour moi, c'est un ministère de réconciliation d'abord avec Dieu, avec les autres, avec la nature et soi-même. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'être au clair sur ces notions d'anthropologie. Parce qu'au fond, en ayant fait le chemin jusqu'à nous, par Christ, on est ramené au Père pour être réconcilié. Et là, il y a un message qui vaut la peine d'être défendu. Je vous remercie de votre attention.